La vie du bon côté sur Vivacité.
C'est du sport aussi parfois. Nous allons aujourd'hui aborder la douleur chronique. Peut-être souffrez-vous depuis longtemps de douleurs, ne trouvant aucune explication physiologique et parfois les examens médicaux, même approfondis, ne détectent aucune cause. Toute origine fonctionnelle et organique étant écartée, la douleur peut malgré tout encore persister. Il peut s'agir de tensions très vives, de douleurs aiguës ou même chroniques qui surviennent sans aucune cause apparente ou persistent après un traitement. L'hypnose vous dira aujourd'hui notre invité pourra être une aide précieuse. Cependant, avant d'y avoir recours, il faut vraiment, vraiment s'assurer que la douleur ne remplit plus sa fonction d'alerte. Très important, en effet, la fonction de la douleur est d'avertir d'un dysfonctionnement. Il est donc impératif d'investiguer d'abord d'un point de vue médical. Bonjour Marie-Pierre Prudhomme.
Bonjour Sylvie.
Vous êtes Marie-Pierre, praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique. C'est, je suppose, la première question que vous posez à ces personnes qui viennent vous voir, c'est de leur demander s'ils ont tout investigué d'un point de vue médical.
Exactement. Donc moi, je ne commence pas de traitement en hypnothérapie. Pour la gestion de la douleur, si la personne ne m'assure pas, je veux dire ne me rassure pas, sur le fait qu'elle ait consulté, qu'elle ait fait toutes les investigations médicales. Puisque la douleur, c'est un signal,
voilà,
un signal de dysfonctionnement.
Tout à fait. Ouais.
Donc si on efface le signal et sans savoir s'il n'y a plus rien à signaler, ça devient très, très dangereux pour le corps.
C'est vrai que la douleur peut servir d'indicateur émotionnel, on aura l'occasion d'y revenir, de seuil mental ou physique atteint, et dans certains cas, pour aider à gérer la douleur, l'hypnothérapeute que vous êtes, pourra prendre différentes options. Citons entre autres la laisser se manifester, cette douleur, mais de façon beaucoup plus fugace, la transformer en sensation, inviter l'inconscient à passer son message d'une autre façon que par la douleur. Et en parallèle des séances d'hypnose, il est essentiel aussi, je suppose que vous le dites, à ces personnes qui viennent vous voir, de travailler sur l'alimentation et la bonne santé des intestins.
Exactement. Donc moi, je ne travaille pas la douleur uniquement par l'hypnothérapie. C'est quelque chose que je dis directement aux personnes qui consultent pour ça. C'est qu'on doit regarder au niveau de leur alimentation, au niveau de leur hygiène de vie et voir la santé de leur intestin. Si les intestins ne sont pas en bon état, s'il y a un problème d'étanchéité de paroi intestinale, et ça on peut détecter par certains symptômes, il n'y a pas besoin de vraiment d'examen clinique pour le savoir. S'il y a un problème au niveau des intestins, mais c'est vraiment le foyer pour le développement d'inflammation et pour garder un terrain propice à la douleur. Donc il faut d'abord investiguer là-dedans. Est-ce que vous connaissez la base de base, vraiment le basique du respect des intestins au niveau alimentaire?
Non.
C'est mâcher.
Mâcher.
Oui. Ouais. Et le deuxième, c'est mâcher. Et le troisième, c'est mâcher.
Voilà. Comme les vaches, quoi.
Exactement.
Elles n'ont pas de problème, à mon avis, à ce niveau-là. Vous êtes consciente, Marie-Pierre Prudhomme, que l'hypnothérapie, ça passe pas encore vraiment dans les mœurs? C'est quelque chose d'inconnu encore pour beaucoup de personnes.
Voilà, c'est de plus en plus connu, heureusement. Il y a des médecins qui exercent de plus en plus en hypnothérapie et qui répandent ce message. Et donc, ça veut dire qu'on utilisera moins de médicaments, d'antidouleurs, voire même d'anti-inflammatoires.
Ah, mais ça, tout le monde est pour, hein. Je pense, de toute façon. Ça, tout le monde est pour.
Vos sponsors pharmaceutiques.
Oui, quand je dis tout le monde, c'est le grand public. Bien sûr, il y a tout ça qui va avec. Mais c'est sûr qu'on va parler de tout ça, qu'il y a des choses à dire. Et essayez aussi de simplifier au maximum pour vous parler de l'hypnothérapie en des termes simples.
La vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Avec Marie-Pierre Prudhomme, praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique. L'hypnose, l'hypnothérapie, donc, qui peut soigner certaines douleurs chroniques. Bon, la première question, évidemment, que tout le monde se pose, et je vous la pose, quelles sont les douleurs chroniques dont l'hypnose peut apporter une aide?
Voilà, donc, d'une façon générale, il s'agira de douleurs qui se représentent de façon régulière, voire au quotidien.
Oui.
Mais ça peut être aussi des douleurs comme les troubles prémenstruels.
D'accord. J'ai failli dire, c'est ça que je cherchais mes mots, j'ai failli dire que l'hypnose peut guérir. On peut aller jusque-là ? On peut parler de guérison, de soins ou simplement une aide pour atténuer la douleur ?
Je suis très méfiante par rapport au terme guérison.
Voilà, oui, je m'en doute.
D'un point de vue légal et par respect médical.
Bien sûr.
Mais la gestion de la douleur, la diminution de la douleur, voire la suppression de la douleur, tout ça est réalisable par hypnothérapie.
Oui. Quand on parle de guérison, encore une fois, et on a bien insisté sur ça en début d'émission, c'est quand les examens médicaux, même approfondis, ne détectent aucune cause.
Voilà, donc on travaille vraiment sur le symptôme douleur, c'est-à-dire et le c'est signal ça. Douleur a été envoyé au niveau nerveux, et c'est un peu comme une route qui reste empruntée sans aucun objet. Donc la douleur continue, le signal continue à être donné, mais il n'y aurait plus de cause. Ou alors on ne sait pas agir sur la cause.
D'accord. Je lis le message d'Enza sur le site de vivacité.be. Je souffre depuis 3 ans, dit Enza, de céphalée, de tension, comme dirait ma neuro. J'ai fait tous les examens, IRM, scanner, ponction lombaire, rien, mais là j'en peux plus. Car dès que je me lève le matin, ça commence, ça me reste jusqu'au lendemain. Ce ne sont pas des douleurs, mais des gênes à la tête, des compressions constantes et même ne plus savoir rester debout plus de 5 minutes. J'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu vraiment beaucoup dans ma vie à cause de ça. Je ne sais comment m'en sortir. C'est ma fille aussi qui me fait vivre, sinon je pense que je ne serais plus là. Enfin, elle termine sur des notes pas très, des mots pas très positifs. Donc, aucun médecin, elle dit, aucun médecin ne comprend d'où ça provient. On me prend parfois pour une dingue, et c'est ça aussi que j'en arrive à baisser les bras. Oui. Est-ce que quelqu'un comme ça, il vous est arrivé d'avoir des personnes qui vous tiennent le même discours?
Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs choses à dire. C'est qu'au niveau des céphalées de tension, il faut toujours aussi investiguer au niveau d'allergies alimentaires et parfois d'allergies retard. Donc, ce sont des allergies qui ne sont pas perceptibles. Mais néanmoins, il y a une production d'anticorps assez importante et ça peut générer le problème de céphalée de tension. Donc ça, c'est une première piste.
Oui.
Alors, comme vous avez remarqué, Sylvie, effectivement, Elsa ou Enza, je ne sais
Enza,
plus.
Oui.
Enza rentre dans un discours plutôt noir et elle se sent mal. Mais ça, c'est on ne sait plus très bien où ça commence finalement. Un état de type dépressif ou pessimiste va être un foyer extraordinaire pour le développement de la douleur. Et la douleur va entretenir...
C'est un cercle vicieux.
Voilà, ouais. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc là, il y a plusieurs plans sur lesquels agir. Aider à retrouver, on ne va pas être trop ambitieux, même pas dire une joie de vivre, mais une envie de vivre. Et travailler en direct sur la douleur. Donc là, ce sont deux points qui sont distincts, mais le travail se fera par rapport à ce travail de fond, qui est le moral de la personne, et par rapport à la douleur en elle-même, parce que la douleur au quotidien est quelque chose qui transmute une personnalité et qui change complètement quelqu'un.
C'est sûr, ouais. On en connaît tous, plus ou moins des personnes comme ça qui traînent une douleur depuis très longtemps et qui, encore aucun médecin n'a pu vraiment cerner le problème. Nathalie, bonjour.
Bonjour Sylvie.
On parle de mal de dents, mais même d'anesthésie sous hypnose chez un dentiste avec vous.
Oui, c'est ma dentiste qui m'a conseillé ça parce que mon fils a été pour un soin classique. Et donc pendant qu'elle faisait l'anesthésie, il avait très mal. Et alors elle lui a fait 2 anesthésies et la douleur ne passait pas. Et deux, trois jours plus tard, il a commencé à avoir... Un autre endroit dans la bouche, des douleurs comme s'il avait eu un abcès ou quelque chose, et en fait c'est une inflammation apparemment des nerfs, et donc la dentiste ne sait rien faire parce qu'elle a beau essayer de faire des anesthésies et ça ne s'endort pas, et voilà le conseil qu'elle m'a donné, donc on va aller voir ça parce que je n'ai pas arrêté, j'ai rendez-vous lundi prochain chez ce dentiste, et donc voilà, mais apparemment ça marche pas mal, et j'espère que ça ira après ça.
Marie-Pierre ?
Donc C'est une application assez fréquente, l'hypnothérapie chez le dentiste ou en préparation aux soins dentaires. Donc, il y a par exemple des personnes qui ont une grande appréhension, voire une phobie de se faire soigner, que ce soit une piqûre ou que ce soit une intervention, quel que soit l'endroit du corps. Mm-hmm. Et le fait d'ouvrir la bouche peut être vécu vraiment comme une intrusion. Donc, il y a des personnes qui se bloquent littéralement et qui ne savent même plus ouvrir leur bouche. Et donc, il y a un travail qui peut être fait en hypnothérapie préparatoire à ça pour que la personne puisse se laisser soigner. Donc il y a plusieurs aspects qui sont abordés. Il y a celui-là donc, qui peut être une préparation, mais il y a aussi un apprentissage de l'auto-hypnose pour que la personne qui va chez son dentiste, qui n'est pas nécessairement formée en hypnothérapie, puisse elle-même
se relaxer
et rentrer dans cet état d'auto-hypnose pour pouvoir recevoir les soins.
Allez-y, pas de piqûre. Non, je suis zen, voilà. Je suis sous hypnose. On va revenir justement sur l'auto-hypnose parce que on fait parfois des comparaisons un peu trop hâtives entre les deux. Dans la vie du bon côté, nous vous parlons de l'hypnothérapie aujourd'hui avec Marie-Pierre Prodhomme. On vous demande si vous avez déjà approché cette thérapie-là, si vous avez déjà entendu parler de ça, si vous connaissez des personnes qui ont déjà eu recours à l'hypnose. Vous êtes nombreux à poser des questions, évidemment, par rapport aux douleurs dont vous souffrez, les douleurs chroniques. On a fait un petit compte-rendu de certaines douleurs chez qui, donc, pour qui l'hypnothérapie va apporter une aide précieuse. Je vois le message de Brigitte, on a parlé il y a quelques instants de l'hypnose aussi dans le domaine dentaire, chez les dentistes. J'ai une collègue, dit Brigitte, qui pour extraire une dent doit utiliser l'hypnose car allergique à l'anesthésie. Ça aussi, c'est là on peut comparer par contre, des personnes qui sont allergiques à l'anesthésie vont avoir recours à l'hypnose.
C'est ça. Ouais. Donc, en fait, quand on utilise l'hypnose pour pouvoir opérer, donc je veux dire, opération au sens général, que ce soit en dentisterie ou en chirurgie, en chirurgie, on utilise une légère dose de sédatif et puis l'hypnose on peut travailler en hypnose. Donc, on fera ça uniquement quand on n'aura pas besoin d'utiliser des myorelaxants, des substances comme le curare. Si on ne doit pas passer outre des parois musculaires.
Oui.
Donc le myorelaxant, il va relâcher complètement la paroi musculaire pour que le chirurgien puisse déplacer ça un peu comme un drap et accéder aux organes. Si on n'a pas besoin d'un myorelaxant, enfin c'est une des conditions, pas que, on pourra utiliser l'hypnose pour une opération chirurgicale. Donc dans ce cas-là, comme en dentisterie, la séance d'hypnose en fait va, entre autres, aider la personne à se défocaliser de l'endroit sur lequel le praticien est en train de travailler.
C'est ça.
Donc c'est un travail vraiment de défocalisation. On amène l'attention à l'extérieur. Mmh. Ça veut dire que pour les personnes qui ont des problèmes obsessionnels ou qui sont hyper angoissées, elles n'ont même pas besoin de se faire aider par un hypnothérapeute. Si elles ont une préoccupation, tiens, est-ce que j'ai bien rangé ça ? Est-ce que
j'ai fermé la porte avant
exactement.
De
est-ce que j'ai bien fermé la porte avant de partir ? Et que la personne à cette focalisation sur ma porte, qu'est-ce que j'ai fait avant ? Est-ce que j'ai bien vérifié, etc. Elle ne va quasi rien sentir. Parce que son esprit est vraiment tout à fait ailleurs. Mmh. Et ici, ça va être le rôle de la personne, de l'hypnothérapeute, c'est trouver ce qui va complètement défocaliser la personne. Mais là, on n'utilise pas un problème obsessionnel, on va plutôt utiliser quelque chose qui est de l'ordre d'un endroit de sérénité, d'une ressource, quelque chose qui est vraiment agréable pour la personne. On va enrichir ça et on va emmener la personne là-bas pour qu'elle ne soit pas dans l'intervention, dans l'endroit. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
Sympa ici. 3063, intéressant tout ça. Si vous voulez donc témoigner, c'est Joël d'ailleurs qui prendra la parole pour nous parler aussi de ce qu'elle a fait elle au niveau de l'hypnose ericksonienne. Joël, on l'entendra juste après ceci.
La vie du bon côté sur Vivacité.
Beaucoup de Question évidemment par rapport au sujet que nous développons aujourd'hui, l'hypnothérapie, les douleurs chroniques. Comment peut-être aider, comment l'hypnothérapie, l'hypnose peut-être une aide pour ces douleurs chroniques. Si vous souffrez depuis longtemps de douleurs, ne trouvant aucune explication physiologique, aucune explication médicale, même après des examens approfondis. Des auditeurs déjà nous demandent si vous avez écrit des livres, Marie-Pierre, parce que ça intéresse évidemment, c'est un sujet qui intéresse, oui je pense.
Oui, donc il y a des livres qui sont disponibles en téléchargement, ouais. Mais qui sont orientés sur l'alimentaire. Il y en a un qui est les 10 premiers secrets, qui reprend en fait des notions de base, entre autres axées sur la naturopathie, et avec des séances d'hypnose. Donc là, on a très vraiment à comment s'alimenter pour booster son immunité, travailler sur la longévité, etc. L'orientation de ce livre est aussi au niveau d'un régime qui va, enfin un régime, une façon de s'alimenter, j'aime pas le mot régime qui est restrictif, mais des choix alimentaires qui vont être vraiment bénéfiques au niveau de la suppression de l'inflammation et de la douleur. Donc ça, voilà, ça c'est les 10 premiers secrets téléchargeables, et les autres méthodes, je m'insie, donc c'est principal au niveau alimentaire, c'est disponible sur le site Hypnopulse, hypnopulse.com.
D'accord, et moi je mets le site hypnoseliège.com, oui. Puisque vous êtes sur la région de Liège, à Isneux, hein,
tout
c'est
à
ça
fait.
Donc le site est en ligne sur la page Facebook, comme ça vous pouvez directement aller voir ce que fait Marie-Pierre Prudhomme. Vous avez directement d'un clic de souris accès à son site internet. Joël, bonjour.
Oui, bonjour.
Joël, vous souffrez oui. De pas mal de choses.
Ah oui. En fait, je suis foutue de partout, comme on dit ici. Donc, je souffre. La réelle raison qui m'a amenée chez une hypnothérapeute, c'était en fait des conflits intérieurs dus à une mauvaise enfance et adolescence, une maladie, la fibromyalgie. Mmh. Donc là, on ne trouve absolument rien enfin, on a le syndrome, mais c'est tout, on ne trouve rien, donc on dit que c'est imaginaire, mais on souffre énormément, et j'étais presque handicapée, je n'arrivais même plus à marcher, donc c'était très éprouvant, vu que j'ai un petit garçon qui maintenant a 7 ans, à ce moment-là, il était encore tout petit, et je ne savais plus comment faire, parce que dans ma tête, ça n'allait pas, je repensais à mon enfance, toutes les douleurs, toutes les souffrances, et celle physique également, plus une vie qui n'a pas été facile au niveau de femme, ou en tant que femme. Et un beau jour, je me suis dirigée donc vers une psychothérapeute qui fait l'hypnose ericksonienne. Mmh. Nous avons eu un premier contact tout à fait normal, sans hypnose. Et puis elle me l'a proposé. J'ai fait 3-4 séances et je dois dire que je me suis retrouvée. J'ai pu, grâce à un CD qu'elle m'a donné, que j'écoutais tous les jours, j'ai pu me retrouver moi et me mettre sur le même piédestal que ma mère, donc pouvoir évoluer. Parce que je culpabilisais tout le temps, je trouvais que j'étais nulle, que j'étais bonne à rien, etc. Et de ce fait, les douleurs ont commencé à s'estomper lentement, parce que justement, je me sentais mieux dans ma peau. Donc c'est quelque chose de vraiment fabuleux pour moi. Et je dois dire que même au quotidien, je pratique l'auto-hypnose pour beaucoup de choses quand je me sens très mal.
Ouais,
voilà.
C'est vous ça, avez pratiqué, c'est bien, quoi, parce que.
Oui, j'y arrive beaucoup parce que c'est vraiment un travail à faire. Enfin, il faut beaucoup d'aide. C'est vrai que cette personne, j'habite à Sinet, cette personne est vraiment exceptionnelle. Elle aide beaucoup de gens et je dois dire qu'elle m'a vraiment appris à me centrer sur moi-même et voilà, maintenant je dois subir une opération en mars et j'ai presque envie de me faire opérer sous hypnose, mais c'est vrai que j'ai un peu peur parce que c'est une lourde intervention, donc c'est pas trop ce que je dois faire, donc étant donné la fibromyalgie, j'ai quand même un peu peur de souffrir. Je ne sais pas du tout. Parce que l'hypnose ericksonienne et l'hypnose que moi je pratique, enfin en auto-hypnose, c'est quand même pas la même chose. Et l'hypnose médicale, je ne la connais pas vraiment. Donc ouais. Voilà ça.
C'est pour ça, Joël, qu'en début d'émission, j'ai dit qu'il y aurait peut-être des plusieurs termes qui allaient être énoncés aujourd'hui. Vous parlez en effet d'auto-hypnose, d'hypnose médicale, d'hypnose ericksonienne. On fera peut-être un petit point encore sur ce que vous avez dit dans quelques instants, notamment la fibromyalgie, puisqu'il a des choses à dire par rapport à ça, et je vois des témoignages qui nous arrivent par rapport à ce sujet-là. L'hypnose, si l'hypnose vous gagne, ça veut dire si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le sujet, si vous vous posez des questions, et je vois que vous êtes nombreux en effet à vous poser des questions, même les sceptiques s'y mettent, et c'est normal, justement. Est-ce que l'hypnose fonctionne sur des gens qui sont sceptiques par rapport à la pratique? C'est la question d'Olivier. On y viendra dans quelques instants avec le message de Monique aussi qui voudrait en savoir plus. Elle souffre depuis 2006 de douleurs chroniques cervicales et lombaires et elle voudrait savoir un petit peu si l'hypnose peut l'aider évidemment à soigner ces douleurs-là. L'intervention de Monique et votre intervention à vous, Marie-Pierre Prudhomme, puisque vous êtes notre invitée, ce sera dans un instant. Et Marie-Pierre Prudhomme, praticienne en thérapie brève, dont l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique. Son site internet est en ligne, hypnoseliège.com. Vous êtes sur Esneux, Marie-Pierre, et je vois en tapant sur la page d'accueil qu'il y a un document téléchargeable, disponible en téléchargement. Je n'ai plus peur du dentiste.
Ce sont des séances d'hypnose. Il y en a deux, fait. Qui sont conçus comme préparation aux soins dentaires.
D'accord. Voilà, qui rassurera des personnes qui nous envoient des messages, en effet, pour nous demander l'efficacité de l'hypnose par rapport aux soins dentaires, par rapport à la peur du dentiste. Monique, bonjour.
Oui, bonjour Sylvie.
Bonjour.
Depuis 2006, souffrance, donc douleur au niveau des cervicales et des lombaires, Monique.
Oui, et des épicondylites à répétition dans les deux bras.
C'est de l'arthrose, apparemment.
Alors, on a beau, oui, j'ai déjà fait des scanners, des IRM. J'en ai refait une fin de l'année parce que j'avais tellement mal que c'est au point où parfois je ne sais même pas me lever tellement j'ai mal. J'ai pris beaucoup, beaucoup d'anti-inflammatoires. Donc, maintenant, j'ai des répercussions au niveau de l'estomac, enfin, intestin, on ne sait pas trop bien. Et rien ne s'arrange et on me dit, bah, écoutez, on ne sait rien faire, c'est de l'arthrose.
On sait faire beaucoup pour l'arthrose.
Pardon ?
On sait faire beaucoup pour l'arthrose, énormément.
Ben oui, voilà. C'est tellement facile de dire que c'est de l'arthrose quand les médecins ne savent pas dire exactement ce qui se passe. Mais maintenant, j'ai tellement mal au bras gauche qu'au point parfois où je ne sais même pas m'habiller. Je ne sais pas fermer mon soutien-gorge, par exemple.
Qu'est-ce qu'on peut faire si une Monique vient vous voir, Marie-Pierre, et qu'elle vous dit ça déjà, donc elle vous dit, c'est ce qu'on me dit, c'est de l'arthrose.
Oui, donc il y aura d'abord voir quand les douleurs sont présentes, investiguer au niveau vraiment ergonomique, est-ce qu'il y a des positions de travail qui ne sont pas optimum, quel est le respect vraiment au niveau du corps, et réfléchir, avoir une réflexion au niveau de la structure. Donc là, moi je renverrai chez des podologues, des ostéopathes, etc., pour travailler vraiment sur le fond. Évidemment, là, quand on parle de problèmes inflammatoires, parce que c'est aussi ce qui est évoqué, à nouveau, intestin. Et alors, au niveau du travail en hypnose, on va travailler, s'il y a des modifications alimentaires, travailler pour aider la personne à adopter une nouvelle façon de s'alimenter, et puis un travail en direct sur les douleurs. Donc le travail en direct sur la douleur en hypnose, il va un peu varier. Donc ça peut être, comme j'ai expliqué lors des opérations, où on va se défocaliser de la douleur. Ça peut être aussi des techniques où, par exemple, on prend une dernière fois un antidouleur, un vrai, et on sent en fait la douleur qui s'estompe. Et puis après, on sent la douleur qui n'est plus là dans le corps. Mmh. On va faire ce qu'on appelle un ancrage kinesthésique sur le fait que cette douleur est partie. Donc, par exemple, se pincer un doigt ou enfin quelque chose de gentil, mais c'est une marque kinesthésique qui va rappeler en fait que la douleur n'est pas présente et qu'on respire librement et qu'on se sent bien dans son corps. Et puis on va utiliser ça dans une séance d'hypnose.
Oui.
Par exemple, en visualisant le flacon d'ibuprofène ou l'anti-inflammatoire ou l'antidouleur qu'on a utilisé, et pour refaire en fait mentalement cette suppression de la douleur. Donc la personne va apprendre elle-même à restimuler le circuit nerveux comme si elle l'avait pris l'antidouleur. On pratique beaucoup ça pour les troubles prémenstruels, pour ne pas que la femme soit se retrouve dans une obligation de prendre des antidouleurs comme ça tous les 28 jours.
Et tout ça se fait chez vous, Marie-Pierre? Enfin, je veux dire en séance.
Et quand
la séance est terminée, est-ce qu'on a des devoirs à la maison? C'est ça, quoi, les techniques de visualisation dont vous parlez?
Oui, c'est ça. Donc, comme le disait l'auditrice précédente, qui continue à travailler ça chez elle, l'auto-hypnose, c'est vraiment quelque chose qui est à entretenir au quotidien au niveau de son hygiène de vie, au niveau de entretenir un état d'esprit qui soit positif et entretenir par des exercices mais enfin par des pratiques plutôt que qu'exercices
par des pratiques
où on se conditionne et où on répète en fait ce chemin mental pour se permettre de faire disparaître la douleur.
070 23 33 23 SMS 30 63. Si vous voulez donc vous aussi commenter ce qui est dit aujourd'hui, si vous voulez apporter votre témoignage, votre vécu personnel, si vous avez déjà approché l'hypnose, bienvenue. Un nouveau jour, un nouveau départ, une nouvelle approche de l'hypnothérapie. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Marie-Pierre Preud'homme. À nos côtés, je vois le message d'Alain de WEM qui nous dit « Mon épouse est psychologue clinicienne avec une formation supplémentaire en hypnose analgésique, CHU de Liège, Institut français d'hypnose à Paris. Je ne peux que vous confirmer les effets de cette méthode. » Ou encore Denis nous écrit: pendant 30 ans, Sylvie, j'ai eu des crampes en faisant du sport en compétition. J'ai tout fait par la médecine normale, j'ai avalé des kilos de vitamines de toutes sortes, jusqu'au jour où j'ai fait chercher avec un homme de PNL, on a trouvé ce que c'était en une séance d'hypnose. Je n'ai plus jamais eu de crampes de ma vie. Ne m'appelez pas, mais je suppose qu'on pouvait lire votre témoignage, Denis. Merci en tout cas de nous l'avoir écrit au 3063.
La vie du bon côté, de 14h à 15h30. Vivacité.
Marie-Pierre Preud'homme, à mes côtés, nous sommes en train de lire tous les messages qui nous arrivent au 3063. Ce sont beaucoup de questions. L'hypnose peut-elle guérir l'arachnophobie? C'est le message de Rafa.
Oui, donc ça c'est la...
Et phobie, quoi, en général, les peurs en général.
Des araignées, ouais. Ici. Oui, effectivement, on travaille en hypnothérapie sur les phobies en termes de désensibilisation, un peu comme on le ferait pour des allergies alimentaires. Donc on va apprendre à réapprocher d'abord sous hypnose l'objet de la phobie et puis se mettre en condition réelle. Donc oui, ça fait vraiment partie des applications de base.
D'accord. Autre message, l'hypnose peut-elle soigner les troubles de la préménopause? Vous avez parlé des troubles prémenstruels tout à l'heure, les douleurs prémenstruelles.
C'est ça. Ouais. Donc là, encore une fois, on est dans des symptômes et on est aussi dans un aspect aussi psychologique. Il peut être difficile pour une femme de vivre cette préménopause. Mmh. Donc on va travailler à la fois sur les symptômes et à la fois un travail de fond au niveau du ressenti et de l'état mental pour garder une attitude mentale positive.
Bonne question posée par Olivier. Je la pose à votre place, Olivier, puisque vous n'êtes pas joignable. Olivier demande: est-ce que l'hypnose fonctionne sur les gens qui sont sceptiques par rapport à cette pratique? Et même si elle n'est envoyée qu'une seule fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette question-là en tête.
Donc, en fait, si on décompose le mot hypnothérapie, on a utilisation de l'hypnose à des fins thérapeutiques. Donc, peut-être redéfinir l'hypnose. L'hypnose, on devrait toujours dire auto-hypnose, c'est un état dans lequel on se met soi. Donc l'intervenant extérieur, le thérapeute aide la personne à glisser dans cet état d'auto-hypnose, donc qu'on génère soi-même. Et cet état d'auto-hypnose, on s'y connecte naturellement. On s'y connecte plusieurs fois par jour, on s'y connecte avant de s'endormir. C'est un état qui est entre la veille et le sommeil. Donc, par exemple, également, si on fait des longs trajets en voiture, on peut arriver à destination et à un moment donné se dire « Ouh, je ne me rappelle pas d'être passé par tel ou tel endroit ». Quand on a ces sensations d'amnésie, en fait, c'est qu'on a été dans un état de type hypnotique. Donc, tout ça pour dire que ça fait vraiment partie de notre fonctionnement. On est avec ça et on est avec ça. Donc, état qui est entre la veille et le sommeil. Donc, quand on l'utilise en hypnothérapie, on va aider la personne à se connecter à cet état-là, à l'y faire glisser, comme juste avant le moment où elle s'endort. Et puis, on va envoyer des messages pour que l'inconscient, puisque l'inconscient est hyper réceptif quand on est dans cet état d'auto-hypnose, on envoie des messages à l'inconscient qui ont pour vocation, entre autres, de soulager la douleur, de passer outre une phobie, etc. Donc, ce dont l'hypnothérapeute a besoin pour que ça fonctionne, c'est que la personne soit concentrée sur quelque chose.
Oui.
Si elle est concentrée sur « ça ne marche pas son truc, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas »,
c'est très bon pour le thérapeute. La personne est concentrée sur quelque chose. Voilà.
C'est fou de dire ça, mais oui, j'avais déjà entendu finalement, plus on est sceptique, plus on, ouais, on, voilà, on se focalise sur quelque chose.
Pourvu que la personne se focalise sur quelque chose, peu importe l'objet.
C'est dingue ça. Je me suis fait opérer il y a 2 mois grâce à l'auto-hypnose, je ne sens plus les douleurs. C'est un message que nous avons reçu. Je n'arrive pas à retrouver une énergie normale. L'hypnose peut-elle aider car je souffre d'une très grande fatigue. J'ai 52 ans.
Oui, donc fatigue, bien évidemment, il y a la fatigue, c'est une manifestation. Donc on va travailler d'abord sur ce qui peut engendrer la fatigue. Ouais. Et on va travailler en hypnose sur la sollicitation des ressources. Le travail sur la fatigue est assez spécifique. Pour les personnes qui travaillent en pause notamment, on va apprendre des méthodes d'auto-hypnose qui vont permettre une récupération rapide. Mmh.
070 23 33 23 SMS 30 63 pour vos témoignages ou vos questions ou via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Vous êtes déjà nombreux à nous poster des messages, voilà, sur des questions bien entendu sur des praticiens qui pratiquent l'hypnothérapie, donc dans les régions où vous habitez. L'hypnose peut-elle traiter des douleurs rhumatismales, arthritiques et autres du même style? Peut-on maigrir par l'hypnose? Question de Marie-Christine. Je pense que oui, hein. Il y a, n'aimez pas le mot maigrir, mais il y a une façon de gérer. En tout cas, c'est grignotage, en tout cas trop de grignotage, oui, pendant la journée par l'hypnose. Oui. Hein,
donc
ça
l'utilisation de l'hypnose à des fins alimentaires est très 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 efficace. Moi, je travaille cette thématique-là uniquement en groupe sous forme d'atelier. C'est un problème qui est récurrent. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va gérer au niveau émotionnel la relation à la nourriture.
Oui, c'est ça.
L'efficacité est là. Il y a vraiment à réapprendre à manger, à transformer sa relation à la nourriture.
3063 pour vos messages, pour vos questions évidemment sur ce sujet qui suscite pas mal de réactions. C'était Normal avec Marie-Pierre Prudhomme, praticienne en thérapie brève dont l'hypnose et l'EFT. Il y a le site de Marie-Pierre qui est en ligne sur la page Facebook de l'émission si vous voulez donc avoir des renseignements complémentaires sur sa technique, sur sa pratique, on va dire, sur l'hypnothérapie. Nous abordons aujourd'hui la douleur chronique donc et l'auto-hypnose, l'hypnothérapie. Ce sont évidemment des choses que les personnes ne confondent pas, mais je pense qu'il faut parler de tout ça, l'hypnose ericksonienne. Vous en direz un mot parce que tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui a témoigné sur le sujet. Je vois des témoignages arrivant en disant vous n'avez pas encore parlé de l'hypnose ericksonienne. On a projeté de parler des douleurs chroniques parce qu'il fallait peut-être diriger peut-être le sujet, mais vous voyez qu'il y a énormément de messages, énormément de témoignages qui vont dans tous les sens.
Oui.
On a parlé de diabète il y a juste avant 15h, les nuirésies pour les enfants, la grande fatigue, c'est quelque chose qui revient souvent, le fait d'arrêter de fumer. Et là, on voulait quand même vous donner la parole à vous, Nadine. Bonjour.
Oui, bonjour.
Parce que c'est demain que vous allez voir un hypnotiseur, dites-vous.
Oui, tout à fait.
C'est pas un hypnothérapeute, c'est un hypnotiseur.
Oui, en fait, c'est la première fois, donc moi j'ai reçu une adresse, donc je me suis décidée quand même d'y aller. Et parce que bon, il y a des gens qui l'ont fait, qui ont réussi. Mais bon, je ne suis pas tellement, comment dire, ça, j'y crois pas tellement en fait.
Vous êtes sceptique?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc j'ai envie d'arrêter, bon, déjà, problème santé et que je ne vais pas le faire, mais disons que j'ai vraiment peur d'y aller, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a peut-être des réactions par après, qu'on réagit autrement.
Ah, oui, voilà les questions que tout un chacun se pose, Marie-Pierre.
Donc, avant tout, se renseigner par rapport à la personne que vous consultez, qui est-elle, comment est-elle formée, etc. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont consulté là-bas? Ça, ce sont vraiment les informations basiques à prendre. Alors, en ce qui concerne un sevrage tabagique, moi, personnellement, je ne travaille pas sur l'arrêt tabac, mais je travaille sur comment faire pour ne pas recommencer à fumer.
Ouais.
Arrêter de fumer, c'est facile, on le fait tous les soirs. Mais voilà, comment fait-on pour ne pas reprendre une cigarette après 2 jours, 2 mois, 1 an, voire 10 ans? Ça, c'est l'objet d'un travail, d'un sevrage tabagique tel que moi je les propose. Donc, il y a des méthodes qui sont faites où en une séance on arrête de fumer. Chez moi, ça se passe pas comme ça. Ça se passe sur 6 rendez-vous qui correspondent à 11 séances. Donc il y a toute une approche au niveau comportemental, qui savent, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au niveau conscient, et il y a le travail au niveau inconscient, oui, de l'hypnose. Donc l'approche est complète. Je suis personnellement pas trop pour les méthodes arrêt en une séance. Voilà, mais ça, chacun a sa façon de travailler. Mais surtout, la bonne compréhension du mécanisme de dépendance du tabac est primordiale. Comment faire pour assouplir ses habitudes et puis pour les laisser de côté. Ça, c'est vraiment la base du travail. Voilà, pour moi, ça doit se faire en plusieurs séances. Mais encore une fois, voilà.
Qu'est-ce que vous traitez le plus en matière de douleurs chroniques ?
Alors, il y a tous les problèmes de personnes type fibromyalgie. Il y a les troubles prémenstruels. Alors, il y a les douleurs type, effectivement, comme une personne le mentionne, douleur au niveau du nerf trijumeau, donc ouais, qui peut être conséquente à une intervention en dentisterie ou d'autres choses. Des problèmes aussi de personnes qui ont la sclérose en plaques.
Oui, c'est ça, mais je vois. Voilà. Peut-elle apporter l'hypnose, peut-elle apporter un soulagement dans une grande fatigue d'une sclérose en plaques et une faiblesse musculaire?
Certainement, Colette. Vraiment, certainement. Aider la personne à rentrer dans une très grande détente, travailler encore une fois au niveau de l'attitude mentale et aider cette personne à se remettre en mouvement. Parce que dans le problème de sclérose en plaques, il faut vraiment se remettre en mouvement, absolument, absolument, pour solliciter les circuits nerveux. Et la personne n'a pas toujours l'énergie pour le faire. Donc l'aide va aussi porter sur cette motivation, sur cette stimulation à bouger.
3063, si on revient évidemment dans cette option que nous avions prise en début d'émission de revenir sur la douleur chronique, si vous voulez témoigner sur ce sujet-là, si vous avez encore une fois contacté quelqu'un, si vous avez suivi quelques séances d'hypnothérapie, venez nous dire ce que ça a changé chez vous, ou ce que ça n'a pas changé, parce que sur la page Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, Marie-Pierre, nous avons mis une question comme tous les jours, nous mettons une question un peu pour lancer le sujet un peu sous forme d'un débat. Dites-nous ce mardi dans la vie du bon côté si vous vous êtes déjà tourné vers l'hypnose pour soulager vos maux. La première proposition qui arrive en tête, c'est: j'ai déjà entendu parler de cette technique et je suis prête à la tester. Devant, l'hypnose n'a eu aucun effet sur moi, et devant, oui, et je suis contente des résultats. Donc ça fait partie aussi des choses à dire dans cette émission. Si vous n'avez pas été content peut-être de la thérapie que vous avez suivie, l'hypnothérapie que vous avez suivie, ben venez nous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que vous seriez prêt à retenter une nouvelle expérience.
La vie du bon côté sur Vivacité.
La douleur chronique, c'est le sujet que nous avons vraiment décidé d'aborder, même si en effet on peut faire une émission sur chacun des thèmes qui ont été abordés, chacune des questions, oui, qui est posée en tout cas, hein, par rapport à l'hypnothérapie. Si vous souffrez depuis longtemps de douleurs ne trouvant aucune explication et que les examens médicaux, même approfondis, n'ont détecté aucune cause, est-ce qu'il vous est arrivé peut-être de penser à des séances d'hypnose, et non pas à une séance d'hypnose, puisque vous pratiquez sur plusieurs séances. Mm-hmm. En général, c'est combien de séances, Marie-Pierre?
Très variable. Très très variable. Ouais. J'ai des personnes avec qui je travaille sur 3 séances, et j'en ai avec lesquelles je travaille sur plus de 20 séances.
Mais ça veut dire que c'est vous qui, à un moment donné, vous dites ça va, c'est terminé, 3 séances, c'est suffisant?
Disons
pour vous,
qu'on se met un objectif et ouais, on voit combien de temps il faut pour atteindre cet objectif. Pour tout ce qui est par exemple les phobies, j'ai une moyenne, je pense, de 4-5 séances.
D'accord.
Pas plus que ça, parfois un petit peu moins. Par contre, tout ce qui est gestion d'assuétude et de dépendance, on est bien au-delà.
Joël de Soumagne, merci de ne pas m'appeler, je suis en voiture. Y a-t-il 100% de réussite ou ça dépend-il du patient? Bonne question.
Alors, très bonne question. Si quelqu'un vous promet 100% de réussite, surtout fouillez.
Bonne réponse.
Donc, il n'y a jamais rien de 100% garanti et de réussite. Et heureusement, on est quand même des êtres humains. Même sur une voiture, d'ailleurs, ça ne marche pas, ça. Comme je disais tout à l'heure, l'état d'hypnose, c'est quelque chose qui est en nous. Maintenant, on sollicite les ressources de la personne. Et la personne est-elle prête, consciemment ou inconsciemment, à utiliser ses ressources et à guérir ou à améliorer sa façon de vivre? Ça, c'est pas sûr. Hein. Donc, qu'est-ce qui va jouer? Il y a l'environnement aussi qui va jouer. Si je quitte ma douleur, ça va avoir un impact au niveau de ma famille. Ma famille ne va plus me considérer de la même façon. Elle va peut-être devoir carrément se réorganiser. Et c'est tout le système qui est ébranlé. Mmh. Donc, parfois, on peut quitter une douleur. Ça veut dire qu'on quitte une certaine position dans la famille. La famille n'est pas prête à ce qu'on reprenne une position et la douleur revient. Donc, voilà, il n'y a certainement pas de 100%. Il y a énormément d'aspects à aborder dans les problèmes de douleur. Et voilà, j'essaye d'aborder un maximum d'aspects pour... donner toutes les chances, en tout cas, à la personne de se libérer. Et parfois, on se libère et ça revient. Et parfois, on ne se libère pas en thérapie. Et par contre, ben, quelques temps après, la douleur s'en va.
Eh oui, les mystères, hein, quelque part, de l'être humain. Bonjour Anne-Michel.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à votre invité aussi.
Ce sont des douleurs névralgiques.
Oui, du nerf trijumeau. Si votre invitée connaît un peu je pense qu'elle connaît cette névralgie, c'est très 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 douloureux.
Oui, très douloureux.
Ça a commencé avec des charges électriques comme ça dans la face, et je croyais de prime abord que ça se passait dans les dents. Donc bon, après tous les examens, je passe toutes les étapes chez le dentiste, radio panoramique de la dentition, encéphalogramme, etc. Pendant tous les examens en clinique, heureusement je n'avais rien de grave, si on peut dire, mais bon, la douleur était là. Donc j'ai commencé avec le tégrétol, qui n'était pas mal comme médicament, mais avec beaucoup d'effets secondaires chez moi, c'est-à-dire que des nausées, pas une très bonne haleine, un peu mal dans ma peau, fatiguée. Il s'est avéré que le foie le supportait pas très bien, pas bien du tout d'ailleurs. Et donc, on en a changé. Enfin, le médecin a changé le traitement. Et bon, maintenant, je suis au Lyrica. J'étais au Lyrica 300 mg par jour. Et maintenant, je suis à la dose maximum 600 mg, accompagnée du Cymbalta. Ça veut dire que c'est un médicament qui est de forme antidépresseur, mais qu'on utilise aussi dans ce qu'on appelle les membres fantômes. Donc, lors d'une amputation d'une jambe ou d'un pied, parfois les personnes se plaignent qu'elles ont encore mal, comme si elles avaient encore leur pied ou leur jambe.
J'ai entendu ça. Et donc, vous n'avez jamais tenté l'hypnothérapie,
Anne-Michel? Et non.
C'est une question que vous posez.
Ouais. Voilà.
Est-ce que ça peut...
Je sais qu'il y a une opération qui peut être envisagée, notamment la glaciation du nerf trijumeau. Mais bon, il y a beaucoup de risques, beaucoup de risques.
Autant essayer de passer par, pourquoi pas, l'hypnothérapie, Anne-Michel.
C'est ça.
Déjà.
On peut faire un travail en hypnose dans cette direction-là. Au niveau de la sensation, vous parlez de glacification, etc. Ça se travaille. Travailler les sensations de froid, par exemple, pour retirer la sensation de douleur.
Voilà peut-être une première piste à suivre, en effet, avant d'envisager d'autres types d'interventions. Je lis le message de Sylvie au 3063. J'ai la sclérose en plaques, moi, depuis 2008. L'hypnose m'a permis de me passer d'anxiolytique, voilà, et d'antidépresseur. Je le recommande vivement. Ça m'a permis de relativiser certaines choses. Message de Sylvie. Ce sont beaucoup de questions encore, hein, qui continuent d'arriver. Beaucoup de parents aussi qui s'interrogent sur l'hypnothérapie pour les enfants médicaments, oui, ça peut aussi aider. Hein. On a parlé des neurésies tout à l'heure, troubles du sommeil aussi chez les enfants. C'est quand même la fibromyalgie qui revient en tête de liste. Ce sont beaucoup de personnes qui souffrent de ça et qui nous demandent si l'hypnose, évidemment, peut les aider. On aurait aimé contacter Laurie qui nous dit « L'hypnose réapprend à se reconnecter à son moi intérieur ». Je trouvais que c'était un beau mot de la fin, ça.
Oui, c'est un très beau mot de la fin.
Qu'est-ce que vous pouvez dire, alors, sur ça?
Ce que je peux dire, c'est que Laurie, en fait, vient d'expliquer pourquoi on parle de l'hypnose pour tant d'applications.
Oui.
Donc, ce n'est pas un moyen miracle. En fait, si, c'est au fait très, très miraculeux. Le processus de l'auto-hypnose consiste à se reconnecter à soi et à solliciter ses ressources intérieures. Donc, une fois qu'on mobilise ses ressources intérieures, bien, on peut appliquer ça à énormément de choses, que ce soit une pathologie, que ce soit l'envie de simplement d'accéder à davantage de mieux-être, eh bien, on sollicite ce fort intérieur, on sollicite ses ressources profondes, voilà, en vue de soulager la douleur, en vue de d'aller mieux et de s'épanouir.
Je vois aussi le message juste maintenant qui vient de nous arriver. L'hypnose m'a beaucoup aidé, moi, à me comprendre et avancer dans ma vie. Et en plus, je fais des constellations familiales qui sont formidables. Donc, c'est un complément, si on peut dire. Hypnoseliège.com avec un trait d'union. Le site de Marie-Pierre Prudhomme est en ligne sur la page Facebook de l'émission. Si vous voulez aller cliquer sur le sujet. Merci Marie-Pierre.
Merci beaucoup Sylvie.
De nous avoir parlé de ce sujet aujourd'hui.